Vous écoutez Ma cuisine ayurvédique, le podcast, épisode 7. Bonjour et bienvenue, je suis Tiffaine Paonessa, nutritionniste spécialisée en Ayurveda et je suis ravie de vous accueillir dans ce numéro de mon podcast qui a changé de nom et s'appellera désormais Ma cuisine ayurvédique, le podcast. À chaque épisode, je vous aide à appliquer l'Ayurveda au quotidien dans votre cuisine pour améliorer votre santé et votre bien-être. Ma cuisine ayurvédique, c'est aussi une recette végétarienne dans votre email à chaque numéro pour vous aider à rendre votre cuisine ayurvédique pas à pas avec des outils et des conseils concrets pour manger mieux et vivre mieux. D'où viennent nos rages de sucre ? Me voici de retour avec un sujet qui nous concerne à peu près tous, les craquages alimentaires. Je vais vous parler aujourd'hui de cette envie quasi irrépressible de manger un mets sucré, et ça va du petit carré de chocolat noir pour ceux qui essayent de faire attention, à la grosse part de cheesecake. Il y a des tas de configurations différentes et je vais en parler, mais dans ma pratique, j'ai déjà remarqué chez un certain nombre de clientes que ces craquages de sucre se produisent beaucoup plus facilement à des moments stratégiques comme la fin de journée, la fin de repas ou le repas du soir. Dans cet épisode, je vais d'abord faire un petit tour d'horizon sur la situation avec le sucre ici en Europe. Ensuite, je vous parlerai du goût sucré vu d'un point de vue ayurvédique. Et puis, je terminerai par la question qui nous brûle tous les lèvres. Pourquoi est-ce que chez certaines personnes, ce besoin de sucre se manifeste en particulier à la fin d'un repas et encore plus le soir? Et je pense que certains points vous donneront matière à réflexion et aussi peut-être l'envie de changer des choses dans votre alimentation ou dans votre vie. Alors, on est tous plus ou moins à faire la chasse au sucre, en particulier au sucre blanc, et on a bien raison, parce qu'on sait que cet ingrédient, eh bien, il contribue largement au surpoids et à l'obésité, mais aussi aux problèmes cardiovasculaires, aux maladies chroniques comme le diabète de type 2, et je ne vous parle même pas des problèmes dentaires. Tiens, d'ailleurs, en parlant de dents, est-ce que vous saviez qu'avant l'introduction du sucre en Europe au XVIe siècle, les gens souffraient très peu de caries ? Qu'au cours des 300 dernières années, nous sommes passés en moyenne d'une consommation de moins de 2,3 kg par an et par personne à plus de 40 kg de sucre par an. C'est vertigineux, vous ne trouvez pas ? Quelle est la cause de cette surconsommation ? Bien sûr, je vous passe les produits ultra transformés qui contiennent pour la plupart une bonne dose de sucre. Je vous passe aussi toutes les manœuvres manipulatoires derrière tout cela. Le sucre, c'est un commerce qui rapporte gros. Le lobby du sucre est puissant au point d'avoir financé des études pendant des décennies pour rejeter la faute sur le gras à propos des maladies cardiovasculaires. Je suis nutritionniste spécialisée en Ayurveda et la question du sucre, ce besoin absolu de terminer le repas par un dessert sucré, c'est quelque chose qui revient presque systématiquement dans mes consultations avec mes clientes. D'abord, je commence par une constatation basique. Ici, en Europe, en tout cas en France et en Suisse, eh bien, il y a une surabondance de produits sucrés. Il faut savoir que cette situation, eh bien, elle est aussi culturelle. Par exemple, autrefois, j'ai beaucoup voyagé et une chose m'a surprise à Cuba. Bon, à l'époque, c'était il y a 20 ans, ça peut être changé depuis. Mais en tout cas, il y a 20 ans, c'était relativement difficile de trouver des bonbons dans un magasin. Alors qu'ici, il suffit de faire un tour dans un supermarché pour constater que l'offre est écrasante, avec des rayons énormes consacrés au chocolat, aux bonbons et aux gâteaux d'hiver. Cette omniprésence des produits sucrés, aux emballages attrayants, à l'apparence alléchante, elle n'est pas sans conséquence sur notre mental. Les sollicitations, elles sont permanentes, à la télévision, dans la rue, sur les panneaux d'affichage, dans votre boîte postale, sur vos écrans, votre téléphone, voilà. Tout ça, c'est subtil, mais ça génère une certaine agitation intérieure qui représente un certain inconfort, une certaine instabilité que nous cherchons à apaiser par l'acte d'achat. Le simple fait d'acheter apaise immédiatement cette micro-tension et là, c'est bingo pour l'industriel qui peut ainsi nous refourguer sa camelote. Je pense que vous le savez, le sucre, c'est un ingrédient qui est pas cher du tout et une fois mélangé avec de la gélatine, des colorants et un tas d'ingrédients au nom imprononçable, eh bien, c'est revendu à un bon prix. On se retrouve ainsi avec un paquet de bêtises à la maison et là, l'agitation se poursuit jusqu'à ce qu'on ait avalé le fameux paquet. Alors, ça paraît anodin, mais oui, ces sollicitations sont une façon très discrète de monopoliser notre esprit et ça représente un stress. Bien sûr, hein, c'est un stress très subtil, mais ça compte. Et les conséquences sur notre santé, et je pense en particulier aux enfants, eh bien, elles sont énormes. Maintenant, d'où vient notre appétence pour le sucre ? Parce que je dois bien vous le dire, ça ne m'est encore jamais arrivé qu'une cliente arrive en consultation et me dise « Bonjour, j'ai un problème avec le piment, des fois j'ai des crises incontrôlables, je vais au frigo et j'avale 3 piments d'un coup. » Non, une bonne partie des femmes qui viennent me voir, elles le font pour perdre du poids et leur problème numéro un, très souvent, mais pas toujours, hein, on est d'accord, c'est le sucre. Alors pourquoi ? D'abord, il faut comprendre la vision ayurvédique de la saveur sucrée. En Ayurveda, goût sucré, eh bien, ça ne signifie pas obligatoirement sucre ou gâteau ou bonbon. En réalité, le terme sanskrit madhura, utilisé pour nommer la saveur douce, eh bien, elle correspond plutôt à un goût qu'on dirait neutre, assez fade. C'est cette saveur qui est prédominante, par exemple, dans le lait, dans la crème, le ghee, le blé, les matières grasses, le miel, les fruits, les viandes, les légumes racines comme la patate douce ou la carotte, les noix, les graines, etc. Et on la retrouve d'ailleurs aussi dans une certaine proportion dans des plantes et des épices comme la cardamome, la réglisse ou la cannelle. Cette saveur douce, elle est essentielle à la santé et en général, les aliments doux consommés de façon raisonnable, dans des proportions adéquates, en fonction des besoins de chacun, eh bien, ils représentent la source principale de nutrition du corps humain. Le goût sucré, que moi j'appelle goût neutre, eh bien, c'est un goût qui nourrit et qui fortifie. Les aliments à la saveur douce vont donner de l'énergie, ils vont favoriser la prise de masse corporelle. Et d'ailleurs, parmi les champions du goût sucré, on a le blé. Et ce n'est pas pour rien que les enfants et les adolescents raffolent des pâtes et du pain, tout simplement parce qu'ils sont en pleine croissance et que leur corps en redemande. J'ai d'ailleurs une fois eu en consultation une maman inquiète de voir ses enfants manger tant de produits à base de blé, alors qu'elle aurait plutôt voulu les voir manger de grandes assiettes de légumes. Et il a fallu que je la rassure et que je lui explique que c'était tout à fait normal et légitime. Moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que tant qu'on favorise plutôt les produits semi-complets, qu'on les digère bien, que ça ne cause pas de fatigue, de problèmes de peau, de problèmes respiratoires ou d'autres soucis de santé, et aussi qu'on alterne avec d'autres céréales, eh bien, il n'y a pas de raison de priver les enfants de pâtes pour les nourrir de carottes. En général, la saveur douce nourrit tous les tissus du corps. Elle va favoriser la fertilité, la longévité et la vitalité. Et ça, ça n'a rien à voir avec le sucre blanc qui, lui, au contraire, prive le corps de nutriments et nuit au système immunitaire. Donc ça, ce sont les effets du goût sucré au niveau physique. Maintenant, un effet secondaire intéressant de la saveur douce, c'est qu'elle provoque très rapidement un sentiment d'apaisement, de satisfaction. Et là, on en vient aux raisons qui font qu'on a tous, plus ou moins, une appétence pour cette saveur. Alors, bien sûr, je pourrais vous parler du lien entre manque affectif et consommation de sucre. C'est vrai, le goût sucré, c'est la première saveur que nous découvrons lorsque nous venons au monde. Si vous avez déjà goûté du lait maternel, alors vous savez qu'il a le goût d'une eau sucrée. Lorsque nous pleurons bébé, notre mère accourt, nous donne le sein et alors nous sommes tout de suite réconfortés par ce liquide chaud et sucré. D'où l'affinité particulière que nous tous, humains, avons avec la saveur sucrée. Inconsciemment, nous associons goût sucré, amour et sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous plus ou moins au courant du lien fort entre manque d'amour, tristesse et consommation de sucre. On a tous eu au moins une fois un chagrin qui nous a fait plonger dans le pot de chocolat. Ça, c'est quelque chose d'acquis dont on est tous plus ou moins conscients. Mais il y a aussi des tas de configurations différentes qui peuvent nous pousser à consommer plus de sucre que nécessaire. Premier cas de figure, par exemple, si votre système digestif est encombré et que vous peinez à assimiler correctement la nourriture, eh bien, ça peut déclencher des envies sucrées. Les sucres rapides sont une source d'énergie, ils sont rapidement assimilés par l'organisme. Votre corps le sait et ça peut provoquer des craquages. C'est d'ailleurs un cercle vicieux parce que les aliments sucrés, donc je parle là des aliments très très sucrés comme les bonbons, le chocolat, etc. Donc ces aliments très sucrés, en retour, ils vont perpétuer l'affaiblissement de la digestion et c'est donc l'histoire du serpent qui se mord la queue. Si vous êtes dans une telle situation, vous avez peut-être besoin d'un régime purifiant pour désencombrer votre système digestif et repartir sur de bonnes bases, et l'Ayurveda est parfaite pour cela. Si vous avez besoin de travailler sur votre alimentation, eh bien sachez que je peux vous aider à remettre votre alimentation d'équerre. Toutes mes consultations se font à distance, donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Je propose d'ailleurs sur mon site un mini-bilan gratuit. Deuxième cas de figure, si vous adoptez une alimentation complètement décalée par rapport à vos besoins, eh bien ça peut générer une forte appétence tant pour les aliments riches et caloriques que pour les aliments sucrés. J'ai eu une fois le cas d'une cliente qui avait adopté un régime vegan et sans gluten qui n'était pas suffisamment nourrissant et qui ne convenait pas du tout pour son terrain particulier. Et ça se traduisait très nettement par de gros craquages sucrés et aussi à l'occasion par des lâchages complets sur du fromage, alors que justement, elle voulait éliminer les produits laitiers. Donc ça, c'est important. Si vous envisagez de changer de régime alimentaire, ne le faites pas juste à partir d'idées préconçues, mais faites-le en prenant en compte vos besoins, votre mode de vie et surtout en composant vos menus de façon raisonnée, quel que soit votre choix. Parce que ça ne suffit pas de se dire « allez hop, j'élimine tous les produits animaux, je mange des carottes et du riz et c'est bon, c'est un régime vegan ». Non, ces régimes-là, ils doivent être pensés soigneusement pour être équilibrés en fonction de vos besoins, sinon ça peut effectivement être contre-productif et déboucher sur des craquages. Lorsque je reçois en consultation une personne qui a tendance à exagérer sur les sucreries, je commence toujours par analyser en détail son alimentation et l'état de son feu digestif. Et puis ensuite, pour contrecarrer les envies de sucrer, eh bien à certaines personnes, je vais recommander d'ajouter plus d'aliments plus nourrissants, à d'autres, plus d'aliments stabilisants comme les céréales par exemple, et encore à d'autres personnes, eh bien je peux conseiller d'ajouter par exemple plus d'aliments amers ou astringents. Troisième cas de figure qui peut nous faire nous lâcher complètement sur les desserts et qui est relativement facile à régler, ce sont les menus incomplets. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'une assiette fade, aux saveurs ou aux textures peu variées, eh bien, en général, ça vous laisse sur votre faim. Par exemple, si je prends une assiette de pâtes et une tranche de jambon. Ici, ce n'est pas que vous ayez encore vraiment faim, en réalité, vous êtes même plutôt rassasié. Ce qui se passe ici, c'est plutôt que vous sentez confusément que le repas n'est pas complet, qu'il vous manque quelque chose, et comme vous ne savez pas quoi, eh bien, vous enchaînez sur un dessert, ou alors vous vous vengez quelques heures plus tard en grignotant à la pause. Il faut savoir qu'un des effets secondaires de la saveur sucrée, selon l'Ayurveda, c'est de provoquer un sentiment de satiété. Donc, en finissant votre repas insatisfaisant par un dessert, vous vous donnez l'illusion d'un repas complet. Il y a une petite expérience que vous pouvez tenter chez vous, c'est d'essayer de vous faire un repas moins copieux, mais avec une palette des goûts plus large, et vous verrez que vous serez beaucoup plus facilement rassasié et satisfaite. Pourquoi ? Eh bien, selon l'Ayurveda, il existe 6 saveurs, la saveur sucrée, acide, salée, piquante, amère et astringente. Chacune de ces saveurs exerce une action bien particulière sur notre organisme et c'est très nécessaire d'apporter toutes ces saveurs dans notre assiette au quotidien parce que l'excès ou le manque d'une ou plusieurs de ces saveurs, eh bien, à long terme, ça peut générer des problèmes de santé. Si on prend par exemple une assiette de pommes de terre avec un steak, eh bien, ce que vous avez là, c'est un repas essentiellement sucré, donc un repas doux et salé. Ça veut dire qu'il vous manque tous les autres goûts, dont le goût amer. Donc, ce n'est pas étonnant ensuite si vous avez envie à la fin du repas de chocolat, parce que le cacao, même si on y ajoute une bonne dose de sucre, il faut quand même rappeler qu'à la base, il est amer. Une alimentation dans laquelle il manque une ou plusieurs saveurs, eh bien, à long terme, ça va favoriser les maladies. Et si on regarde attentivement notre alimentation aujourd'hui, eh bien, on remarque que globalement, tout tourne autour des saveurs douces, salées et acides, on oublie les autres, et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui on parle d'épidémie de diabète et d'obésité. Sachant que le manque d'aliments astringents, comme par exemple les légumineuses ou certains légumes, eh bien cette absence favorise la prise de poids. Ce qui est en cause dans cette situation, eh bien ce sont tout simplement nos habitudes. Ici en France, en Suisse, les aliments auxquels on est habitué, ce sont les pâtes, les pommes de terre, éventuellement le riz. Alors moi, je vous le dis tout de suite, hein, si vous trouvez du sarrasin ou du millet au menu dans un restaurant, il va falloir que vous m'appelez parce que moi, je cherche encore. Au quotidien, mon travail en tant que nutritionniste spécialisée en Ayurveda, c'est aussi ça. C'est aider mes clientes à modifier leurs habitudes et parfois, eh bien, ça passe par l'introduction de nouveaux ingrédients et de nouvelles recettes qu'elles ne sont pas forcément habituées à consommer. Enfin, j'en viens à la cause la plus fréquente à l'origine de surconsommation de sucre. La cause que je vois le plus en consultation, eh bien, c'est l'agitation. On vit tous plus ou moins à un rythme à 100 à l'heure, avec beaucoup de mouvements, aussi bien au niveau physique que mental. Alors quand je dis beaucoup de mouvements, je ne parle pas forcément de sport. Hein. Ça peut être aussi beaucoup de transports quotidiens en métro ou en voiture, par exemple. Et au niveau mental, on vit tous aussi avec à la fois beaucoup de stress. Donc ça peut être au travail, mais ça peut être aussi autre chose. Beaucoup d'agitation mentale, entre autres avec l'omniprésence des réseaux sociaux. Mais aussi, et ça compte, beaucoup de stimulation des sens. Donc pour ceux qui vivent en ville, il y a les pubs dans tous les sens, la musique, la radio, les écrans, le bruit, etc. Toute cette agitation affecte notre clarté d'esprit et notre capacité à prendre des décisions justes pour nous-mêmes et entre autres de faire les bons choix alimentaires. Par ailleurs, même si on est plus ou moins habitué à toute cette agitation, que ça passe inaperçu et qu'on s'en rend plus tellement compte, au final, cette surcharge, eh bien, ça dérange le dosha Vata qui va s'accumuler graduellement tout au long de la journée et c'est seulement une fois rentré au calme à la maison qu'on va plus ou moins prendre conscience de ce déséquilibre. Et je vous le donne en mille, quel est l'antidote entre guillemets vers lequel on va instinctivement se tourner ? Eh bien, c'est le sucre. Car on sait en Ayurveda que la saveur douce est très apaisante pour Vata et qu'elle va donc favoriser un certain retour au calme. Mais c'est une illusion, parce que saveur douce, ce n'est pas égal à sucre blanc. Et puis, surtout, je dirais qu'il y a un deuxième gros piège, lequel, eh bien, si par exemple, je me jette sur des bonbons pour calmer une agitation intérieure, eh bien, qu'est-ce qui se passe là ? J'utilise quelque chose qui n'a rien à voir, la nourriture, pour pacifier quelque chose de l'ordre du mental. Est-ce que ça vous paraît juste ? Non. Pour être efficace et juste, le remède doit être situé sur le même plan que le déséquilibre. Si demain, vous vous brûlez sur une plaque de cuisson, vous n'allez pas vous asseoir pour commencer à faire de l'art-thérapie pour soigner votre main. Donc pareil, si vous accumulez trop d'agitation intérieure, vous mettre à manger pour vous remplir, pour vous lester inconsciemment, pour vous stabiliser et ramener le calme, c'est vraiment une réponse inadaptée. Et ça, c'est très important si vous entamez un rééquilibrage alimentaire, en tout cas si vous le faites avec moi, lorsque les craquages prennent essentiellement leur source au niveau mental, eh bien, en plus du travail sur vos menus, on enclenche en parallèle une démarche globale. Donc moi, je travaille en coordination avec un thérapeute spécialisé en addiction. Et donc, en plus d'agir sur la composition de vos menus, vous allez être suivi en parallèle avec de l'auto-hypnose, de la visualisation positive, un travail respiratoire, etc., etc., en fonction de vos besoins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aurai encore beaucoup à dire sur le sujet. Entre autres, j'aurais aimé développer un peu plus sur les effets des six goûts sur la santé, mais ça, ce sera pour un prochain numéro. La recette de cette saison que je vous envoie dans ma newsletter, eh bien, c'est mon assiette fétiche en été et en début d'automne. Je la prépare très souvent lorsque j'ai envie de manger frais, sans passer par la case crudité. Vous le savez, l'Ayurveda ne recommande pas forcément les légumes crus en grande quantité. Donc l'avantage de cette salade, eh bien, c'est qu'elle est cuite, tout en étant parfumée et légère, donc c'est parfait, surtout avec ces derniers jours de canicule. Vous retrouverez d'ailleurs d'autres recettes de salade cuite dans mon livre « L'art de se nourrir avec l'Ayurveda ». Je vous dis à bientôt pour le prochain numéro de Ma cuisine ayurvédique et sinon à très vite sur Instagram et Facebook où je suis présente sous le nom Ayurveda Cooking Therapy. À très bientôt.